Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour à toutes et à tous. La radio comme outil ludique et pédagogique, c'est ce que propose en Grèce le réseau European School Radio, installé à l'Université internationale de Thessalonique. Repérer les infox et les campagnes de manipulation demandent une vigilance sans cesse plus élevée et l'éducation joue un rôle essentiel. Mi-avril, le festival Radio Kids Europe a permis aux enfants et adolescents grecs, avec la participation d'Allemands, de Français et de Chypriotes, de s'exercer au décryptage et à la production de l'information. C'est un reportage dans le nord de la Grèce de Joël Bronner.
Nous sommes dans la petite ville côtière de Neos Marmaras, dans le nord de la Grèce, à une centaine de kilomètres au sud de Thessalonique, la capitale régionale de la Macédoine. L'événement, cette mi-avril, c'est la soirée d'ouverture d'un festival radiophonique destiné aux jeunes, qui regroupe près d'un millier de participants au total. Président de la European School Radio, hébergé dans les locaux de l'Université internationale de Thessalonique, Eftichia Touliou est aussi à la tête de l'organisation du festival, dont c'est la 9e édition.
Personnellement, j'ai étudié la pédagogie et je suis une amoureuse de la radio. Mon objectif a donc été de combiner les deux. Il y a quelques années, quand j'enseignais à l'école primaire et que j'utilisais la radio, je voyais que les enfants étaient motivés. Ils formaient eux-mêmes leur équipe. Ils s'attribuaient des rôles en désignant un rédacteur en chef, un ingénieur du son, etc. Au final, ce travail d'équipe permet aux enfants d'apprendre plein de choses, notamment en termes de communication et de coopération.
Parmi les participants, un groupe de jeunes français, allemands et grecs, notamment venus réaliser un podcast pour documenter comme des apprentis journalistes leur passage au festival. Un projet baptisé Kids Radio Europe. Casque sur les oreilles et enregistreur à la main, Jade, 16 ans, profite d'une excursion dans la forêt pour se fondre dans le rôle de reporter et capturer tour à tour les impressions de ses camarades festivaliers et l'atmosphère sonore environnante.
Je suis en train d'enregistrer, là j'écoute ce que j'ai enregistré, mais j'étais en train d'enregistrer des sons, un peu pour habiller le podcast qu'on va faire. Donc là on est en train de faire une petite randonnée. Donc on est vraiment entouré de montagnes, de la nature, tout ça, de l'eau, des papillons, des fleurs, c'est super apaisant. Ouais.
Dans son quotidien, face à la multitude d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'adolescente venue de la région nîmoise se dit méfiante.
Quand j'entends ma sœur en parler qu'il y a eu ce qui s'est passé ça ou ça sur TikTok, j'ai tendance à aller sur internet voir si c'est réel ou pas. Et puis après, j'avise selon ce que je vois. C'est plus fiable quand ça vient de médias officiels pour moi, parce qu'il y a des gens derrière qui ont revérifié l'info.
Ces jeunes collègues grecs, Johanna, 16 ans, et Anna, 15 ans, elles aussi journalistes en herbe, affirment également pratiquer la culture du doute.
Pour l'actualité, je m'informe bien sûr un peu via la télévision, mais surtout via Internet. Je consulte plusieurs sites pour être sûre que les informations soient fiables. Quand les journalistes grecs exagèrent, je veux dire quand ils en font des tonnes, je ne leur fais pas confiance.
C'est principalement à la télé que je suis les informations. Et ici, à la télévision, je trouve que les journalistes exagèrent beaucoup. Ils rendent les sujets beaucoup trop dramatiques. Ça peut pousser les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que ça va être encore pire dans le futur avec l'intelligence artificielle. Nous, les jeunes, on l'utilise, mais elle peut aussi contenir de fausses informations.
D'où l'intérêt pour leurs encadrants d'initier enfants et adolescents à l'univers de l'information. Myrtos Tamelaki dirige ce projet européen d'éducation aux médias au sein de l'association Les Francas. Elle en résume la mission éducative.
Comprendre comment ça fonctionne le monde des médias, comment on peut aller chercher une information, vérifier une source. Notre objectif principal, c'est développer l'esprit critique.
Esprit critique, oui, mais l'initiation aux médias et à l'outil radio passe aussi par la dimension ludique. Ici, Laura, 12 ans, informe ses auditeurs des péripéties du séjour via un carnet de voyage.
Nous sommes jeudi 10 avril. Un drame vient de se produire juste devant l'hôtel. Laetitia a découvert que la machine à café ne marchait plus.
Documenter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, voilà peut-être pour ces collégiens et lycéens européens l'une des leçons de ce festival radiophonique. Quitte à décrire un monde confronté à des réalités difficiles, comme le manque de caféine.
Voilà deux mots qui reviennent très souvent ces derniers mois dans l'actualité en Turquie. Sahte içki, littéralement faux alcool. Car dans le pays, des dizaines de personnes meurent chaque mois après avoir consommé de l'alcool frelaté, devenu très nettement moins cher que l'alcool vendu dans le commerce. Certains observateurs mettent en cause les lourdes taxes imposées par le gouvernement, dont les effets sur la consommation d'alcool se révèlent contre-productifs. Sahte içki, c'est notre chronique en un mot. Anand Lauer, vous êtes en ligne d'Ankara, bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Ah non, on peut dire que c'est une véritable hécatombe depuis le début de l'année.
En effet, comme en période d'épidémie, les médias turcs tiennent un décompte macabre, celui des victimes de l'alcool frelaté. Sur les deux premiers mois de l'année seulement, puisque les autorités turques ont cessé de donner des chiffres à partir du mois de mars, elles ont été au moins 152 si l'on ne compte que les morts, et seulement dans deux villes, Istanbul et Ankara. Le méthanol, un alcool industriel différent de l'éthanol utilisé dans les boissons alcoolisées, est soupçonné d'être la cause de cette vague de décès. Alors le problème n'est pas nouveau, mais il prend une ampleur alarmante en Turquie, un pays où la consommation d'alcool reste faible et semble peu évoluer ces 20 dernières années, soit environ 2 litres par personne et par an en moyenne. L'an dernier, selon les données compilées par l'Observatoire des politiques d'État sur l'alcool, les autorités turques ont saisi plus de 4 millions de litres d'alcool contrefait et de contrebande, sans distinguer entre les deux. Pourtant, cette distinction importe. Çağan Eroğlu est l'un des fondateurs de cet observatoire, créé en 2020 en réaction aux politiques anti-alcool du gouvernement Erdogan.
L'alcool de contrebande est celui qui contient de l'éthanol, qui est en quelque sorte authentique, mais qui échappe au système fiscal. Par exemple, celui qui est importé illégalement de Bulgarie. L'alcool contrefait est celui qui contient du méthanol et provoque des morts. Il est impossible de faire la différence, à moins d'effectuer des tests chimiques, mais les autorités y accordent peu d'importance. Peut-être parce que la consommation d'alcool, quel qu'il soit, n'est pas considérée comme une pratique acceptable.
Anne, comment explique-t-on une telle hausse des décès liés à l'alcool contrefait, c'est-à-dire à l'alcool qui contient du méthanol?
Eh bien, Çağan Eroğlu et d'autres experts sont catégoriques. Si les morts liées à l'alcool contrefait, donc sa consommation, augmentent en Turquie, ce n'est pas parce que la consommation générale d'alcool augmente, c'est que l'alcool contrefait, acheté sous le manteau, nettement moins cher, se substitue de plus en plus à l'alcool vendu légalement. Comme de nombreux observateurs, chambres professionnelles et gérants de magasins spécialisés, il estime que les taxes sur les boissons alcoolisées encouragent la production clandestine et la consommation de ces produits dangereux.
Depuis un changement dans la législation sur la taxe spéciale sur la consommation en 2013, les taxes sur l'alcool augmentent de façon automatique 2 fois par an. À partir de là, on a observé une hausse exponentielle des taxes sur les boissons alcoolisées. En 2020, le montant des taxes sur chaque bouteille a commencé à dépasser le prix du produit en lui-même. C'est à ce moment-là que le marché noir a vraiment commencé à se substituer au marché légal.
Alors pour vous donner une idée, les taxes représentent actuellement 60% du prix d'une bouteille de rakı, l'anisette nationale. De façon plus générale, selon les calculs de fiscalistes turcs, la taxe sur la consommation des boissons alcoolisées a augmenté de 2553% en 15 ans.
Pourquoi est-ce que le gouvernement turc met des taxes aussi élevées sur l'alcool?
Alors, l'objectif principal d'une taxation élevée des produits alcoolisés, en général, c'est de protéger la santé publique. Or, on l'a dit, la Turquie fait partie de ces pays où la consommation d'alcool n'est pas un problème sociétal ou de santé publique, puisqu'au fil des décennies, la demande reste faible, donc très peu élastique. Dans les années 1960, la consommation moyenne en Turquie tournait déjà autour d'un litre par personne et par an. En clair, augmenter les taxes ne fait pas baisser la consommation. C'est pourquoi Çağan Eroğlu, comme beaucoup d'autres, parle d'une politique fondée sur des bases idéologiques. Le président Recep Tayyip Erdogan, un musulman pieux, est en effet connu pour ses positions anti-alcool. Alors la solution, selon de nombreux spécialistes, pour réduire le nombre des victimes de l'alcool frelaté serait une baisse conséquente de cette taxe sur l'alcool pour que ceux qui en consomment ne se tournent pas vers le marché noir. Une option que le gouvernement turc ne semble pas du tout envisager, tant l'alcool est une source juteuse de recettes fiscales.
Anand Lauer, correspondante à Ankara. À bientôt.
To be or not to be.
Au Royaume-Uni, pour favoriser la diversité au théâtre, Project Europa aide les comédiens étrangers à monter sur les planches. L'association permet aux immigrés de première génération de s'insérer dans la vie théâtrale locale, qu'ils soient malgaches, zimbabwéens, marocains ou même français. Project Europa lutte pour promouvoir des castings inclusifs, y compris dans de vénérables institutions comme le Théâtre du Globe à Londres. C'est un reportage de Marie Billon.
This night, you shall behold him at our feast.
Quand Léa Desgarais déclame du Shakespeare, elle est une comédienne, tout simplement, qui joue un rôle.
Examine every married lineament and see how one another lends content.
Elle joue Lady Capulet, la mère de Juliette, dans la nouvelle production de la célèbre pièce de William Shakespeare au fameux Théâtre du Globe, au bord de la Tamise, à Londres.
C'est incroyable. Enfin, le Globe, c'est plus qu'un théâtre britannique. C'est le centre mondial de Shakespeare. C'est un monument historique. C'est une reconstruction. Quand on est à l'intérieur, on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. En plus, là, de faire Roméo et Juliette, qui est vraiment la pièce la plus connue de Shakespeare. Vraiment, c'est magique. C'est juste magique.
La Lady Capulet que joue Léa Desgarais est française. Le metteur en scène a décidé de ne pas cacher que la comédienne est française.
On choisit d'embrasser le fait qu'ici, elle est française. Ça ajoute des choses, comme c'est quand même quelqu'un qui est assez isolé dans un monde très patriarcal, où elle a peu l'opportunité d'élever la voix. Ça rajoute à ça le fait qu'elle soit étrangère.
Depuis qu'elle est en Angleterre, Léa a souvent eu à masquer son accent. On le lui a demandé.
C'est une réalité. Je sais que par exemple, quand j'avais auditionné pour les conservatoires ici, on m'avait dit « Montre-leur que tu peux cacher ton accent français », comme si c'était quelque chose de décisif dans une carrière. Et vu le peu d'accent étranger que je vois sur scène, je me dis qu'il y a sûrement ça, qu'en fait on a peur d'entendre cet accent étranger, comme si ça allait pas être compris.
Pourtant, plaisante la comédienne, la langue de Shakespeare est presque une langue étrangère par rapport à l'anglais d'aujourd'hui, et la pièce se passe à Vérone. Lady Capulet n'est pas anglaise. Léa a eu ce rôle après s'être fait remarquer par les représentants du théâtre lors d'un atelier organisé au Globe par l'association Project Europa. Anna Ogero est la productrice exécutive de Project Europa et c'est au pied du Théâtre du Globe que nous la rencontrons. Depuis 2020, l'ONG essaie de diversifier la scène théâtrale britannique.
Nous travaillons avec et pour les migrants de la première génération au Royaume-Uni. Notre objectif est essentiellement d'internationaliser l'industrie théâtrale britannique en collaborant avec des personnalités d'origine étrangère qui vivent déjà dans notre pays. Toutes nos activités sont axées sur cet objectif, ainsi que sur la xénophobie profondément enracinée dans ce pays.
Selon une étude effectuée auprès de 130 artistes entre septembre 2024 et février 2025 par Project Europa, 71,5% des participants ont personnellement été confrontés à la xénophobie dans leur secteur d'activité. Cela prend différentes formes, n'être casté que pour des rôles types correspondant à sa couleur de peau ou son origine, par exemple jouer le rôle d'un migrant, ne pas parvenir à faire valoir son expérience ou sa formation obtenue dans d'autres pays, et bien sûr, la difficulté à trouver un agent, ce qui réduit les chances d'obtenir du travail.
Je m'appelle Leila Alge, je suis comédienne et productrice de théâtre, basée à Londres, et d'origine marocaine, de Casablanca. Et ça fait 14 ans que je vis en Angleterre.
Comme Léa, Leila collabore avec Project Europa.
C'est une barrière, c'est aussi un plus, parce que voilà, on a aussi besoin de personnes qui parlent d'autres langues, donc ça reste un plus. Après, oui, c'est une barrière parce que on ne va pas forcément m'appeler pour des rôles entre parenthèses anglais. C'est un peu des deux.
In front of you is a square.
Leila travaille sur une pièce de théâtre écrite par Project Europa, Desire Maps. Les acteurs évoquent leur chemin familial sur plusieurs générations pour raconter comment ils sont arrivés au Royaume-Uni. C'est une pièce sur mesure et les spectateurs qui l'acceptent sont invités à monter sur scène, une expérience ponctuelle et symbolique de ce que peut signifier la migration.
La revue de presse sonore, c'est avec Franceline Beretti. Cette semaine, la mort du pape occupe une large place dans les médias européens qui se sont notamment intéressés à son bilan géopolitique.
La revue Le Grand Continent résume son bilan. François a défendu l'écologie, le dialogue interreligieux, le pape a été aux côtés des plus pauvres, en Centrafrique, en Ouganda, en République démocratique du Congo. Dans ces pays, il a écouté avec compassion les victimes de la guerre. Une de ses grandes causes fut l'immigration. Stefania Machetti, journaliste de la revue Internazionale, le rappelle.
Son premier voyage a marqué l'orientation de son pontificat. C'était une visite à Lampedusa après le naufrage d'un bateau transportant des migrants. Elle a donné le ton sur la question migratoire avec des termes qu'il a souvent répétés ensuite. Accueillir, protéger, intégrer. Des paroles qu'il a redites ensuite à Lesbos, d'où il est revenu avec des personnes immigrées.
La presse européenne s'étend surtout sur ce qu'elle considère comme un échec. Le dossier ukrainien. Le pape a mis du temps à désigner Moscou comme agresseur. Alors pourquoi se rater ? Manfred Lutz est un théologien allemand, il a plusieurs fois rencontré François. Avec le journaliste Paul Ronsheimer, il tente de comprendre l'attitude du pape.
Je me l'explique par le fait qu'il n'avait absolument aucune expérience politique. Il n'avait rien d'un diplomate ou de quoi que ce soit dans le genre. C'était avant tout un directeur de conscience. Il était tourné vers les hommes et c'est avec son expérience de prêtre, d'évêque, qu'il a essayé de comprendre les conflits mondiaux. Au début de la guerre en Ukraine, il a pris cet exemple, disant que si dans une communauté deux institutions se font la guerre, ça ne sert à rien de prendre parti pour une des deux en rejetant toute la faute sur l'autre.
Résultat, quelques heures après l'invasion de l'Ukraine par les chars russes, le pape s'est précipité à l'ambassade de Russie et il ne s'est jamais rendu en Ukraine. Le journal Le Monde rappelle qu'il avait déclaré que la colère du Kremlin avait été facilitée par les aboiements de l'OTAN. Son propos était très mal passé dans l'Est de l'Europe. Le prochain pape sera-t-il sur la même ligne ? La presse italienne dresse les portraits des cardinaux papabile, susceptible d'être élu pape. Il y a Pietro Parolin, le successeur naturel de François, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, surnommé le François asiatique. Et parmi les figures les plus conservatrices, il y a l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambogo Bensougou. L'archevêque Bensougou a mobilisé une partie du clergé contre Fiducia Supplicans, déclaration qui autorise les prêtres à bénir les couples homosexuels. Il s'était expliqué sur Cato TV.
Le continent africain a vécu Fiducia Supplicans comme une colonisation culturelle, comme une sorte d'impérialisme de l'Occident, c'est-à-dire les pratiques qui sont considérées comme normales en Occident. On a voulu imposer ça à d'autres peuples.
Le théologien Manfred Lutz insiste, lui, sur un point. Il est impossible de savoir qui va succéder à François. Une seule chose est sûre, ça ne sera pas un Allemand.
C'est complètement exclu. Bon, en même temps, j'avais dit la même chose en 2005. L'émission Sévère mais Juste m'avait demandé si je pouvais venir commenter l'élection du pape si c'était un Allemand. J'avais répondu que ça n'arriverait sûrement pas.
En 2005, pour rappel, le cardinal bavarois Joseph Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI.
Également dans les médias, cette question, Franceline, que peut faire l'Ukraine si Elon Musk décide de la couper de son réseau satellitaire Starlink ? Il semblerait que l'Union européenne travaille à une alternative.
La chaîne Euronews évalue les différents systèmes. GovSatcom, qui veut proposer aux pouvoirs publics européens des réseaux fiables et sécurisés, mais beaucoup jugent qu'il n'est pas adapté à la guerre. L'entreprise Eutelsat, une société franco-britannique, mais sa force de frappe est limitée, elle dispose d'environ 600 satellites contre 7000 pour Starlink. Enfin, il y a aussi le projet Iris au carré, mais il sera opérationnel seulement à partir de 2030. Conclusion de l'eurodéputé Christophe Grudler.
Nous avons clairement les moyens de remplacer Starlink. Évidemment, le mieux, c'est que Starlink reste.
L'Europe n'est pas encore tout à fait prête.
À la semaine prochaine, Franceline Beretti. À la réalisation, Guillaume Buffet, le podcast d'Accent d'Europe est sur notre appli Pure Radio. Mais tout de suite, c'est l'heure du grand débat avec Romain Ouzoui, ou si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest, Jamhiri, 30 minutes d'information en peul.